Bon, bonjour à tous. Bienvenue en deuxième semaine. On va parler aujourd'hui, c'est la séance en général dans les avis d'élèves que vous aimez pas. Mais c'est pas grave, parce que je considère que c'est une séance importante. Ça consiste quand même un peu à s'interroger sur finalement qu'est-ce que vous endossez lorsque vous mettez ce magnifique sweatshirt bleu, école des ponts, since 1747, how cool. Donc on va parler de ça, entre autres choses, on parlera de l'école des ponts. En fait, on va parler de l'ingénieur. Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur? C'est ça un peu le thème de la séance d'aujourd'hui, même si certains d'entre vous sont persuadés, et c'est tout à fait honorable, que vous ne deviendrez pas ingénieur à la suite. Il se trouve que vous êtes rentré dans une école d'ingénieur et que sans vous en rendre compte souvent, ben ça va de pair avec certains habitus mentaux, certaines façons de raisonner, etc. De quoi finalement vous êtes les héritiers, comme on disait après 1968, d'où est-ce que tu parles? Bon, ben d'où est-ce que vous parlez, c'est quand même malgré tout depuis finalement un héritage de plusieurs siècles que vous pouvez accepter ou refuser, ça c'est sûr, mais qui a quand même conditionné certaines des façons dont vous êtes formé, dont vous raisonnez. Donc c'est un peu de ça dont on va parler. On va faire pas mal d'histoires dans cette séance. C'est peut-être pour ça, en général, que ça plaît moins que les autres séances, parce que c'est beaucoup plus historique. Mais on en arrivera à des questions d'actualité sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors on va commencer en se posant un peu des questions un peu générales. Ça vient d'où, le terme ingénieur? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on verra que c'est pas dépourvu d'intérêt de se demander finalement d'où il vient ce terme, comment il s'est développé, etc. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est plutôt sympathique. Ingénieur, ça a des liens avec génie. Donc, vous êtes tous des génies, en un sens restant à préciser. Mais on va voir que, bon, il y a d'autres sens et que ça permet de comprendre certaines choses. On va voir aussi, d'ailleurs, que l'ingénieur, c'est pas une figure sans ambiguïté, parce que c'est à la fois le gars qui a un génie naturel, mais c'est aussi le gars qui a tendance à tricher. Donc on verra ça, etc. L'essentiel de la séance, toutefois, ça va être consacré un peu à l'histoire, puis je vous expliquerai un peu comment, finalement, cette honorable institution, established in 1747, a vu le jour, et comment elle a évolué, au rythme aussi, au rythme des évolutions un peu plus générales de la profession d'ingénieur. Mais je vais essayer d'en parler de façon un peu mondiale, pour vous donner quand même une idée aussi un peu comment ça s'est constitué un peu mondialement et pas uniquement en France, même si on parlera pas mal de la France, mais on parlera aussi de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Allemagne, etc. Alors, l'un des ressorts essentiels, ça va être aussi de se demander comment l'ingénieur est devenu, entre guillemets, une profession. Et qu'est-ce que ça veut dire de devenir une profession? Vous verrez qu'au départ, l'ingénieur, c'est plutôt ce qu'on appelle un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui exerce un art, mais de façon plutôt isolée. Et progressivement, les ingénieurs font groupe et s'organisent de façon assez différente d'un pays à un autre, je vais y revenir. Et du coup, ça a des conséquences aussi sur, finalement, la transformation de la profession. Alors le plan, c'est on va commencer donc aux origines de l'ingénieur, en essayant un petit peu de discuter du mot et comment c'est apparu les ingénieurs. Ensuite, je parlerai de ce que j'ai appelé donc les enjeux de la professionnalisation. Ça veut dire quoi, concrètement, devenir une profession? Je pense que c'est pas inutile de s'interroger là-dessus, parce que finalement, bon, où que vous soyez, vous appartiendrez très probablement à des professions. Ensuite, bon, on parlera des premiers siècles, finalement, de l'histoire des ingénieurs, en allant jusqu'au XVIIIe siècle et à la création de l'École des ponts. Ensuite, le moment où l'ingénierie s'organise vraiment en profession. Et puis ensuite, les transformations au XIXe et XXe siècle. Et puis avec une question qui est une vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que la figure de l'ingénieur, est-ce que même les écoles d'ingénieurs, ça a encore un sens? Et quel sens ça peut avoir aujourd'hui? Parce que c'est des questions qui se posent. C'est des questions qui se posent. Vous avez des gens qui pensent qu'au fond, l'ingénierie telle qu'on a pu l'enseigner, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. C'est en tout cas une question en débat. Donc j'y reviendrai vers la fin de cette histoire, et notamment à propos aussi du devenir de cette honorable maison à laquelle nous sommes tous attachés. Mais donc on parlera un petit peu de ça. Alors, encore une fois, ce n'est pas la séance la plus marrante, visiblement, pour vous, mais enfin, c'est le même prix. Donc, merci de garder le silence, parce que je pense que c'est important. C'est-à-dire, on ne peut pas faire toujours que les trucs qui plaisent au public. De temps en temps, il faut faire des choses qui ne vous plaisent pas forcément, mais que je considère sont importantes, parce que ça vous oblige un peu à réfléchir sur, finalement, l'héritage que vous êtes en train de recevoir, que vous avez déjà partiellement reçu pour certains, ceux qui ont fait les prépas, sans même forcément toujours y réfléchir. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur? Alors, la réponse est loin d'être simple. Elle a varié au XIXe siècle, un ingénieur. Par exemple, en France, au XIXe siècle, les polytechniciens pensaient que c'était les seuls à avoir le droit de porter le titre d'ingénieur. Donc, c'était plutôt simple pour eux. Les autres, c'était pas des ingénieurs. Bon, ça a changé d'une époque à une autre. Et ce qu'on appelle un ingénieur en Allemagne, c'est pas la même chose exactement qu'en France. Vous n'êtes pas formé d'un pays à l'autre exactement de la même façon, etc. Mais il y a quand même quelques petites choses en commun. Alors on va commencer donc aux origines. On commence en fait à parler d'ingénieur à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. Le terme dérive du latin « ingenium » et renvoie en fait à toute une série de sens qu'il n'est pas forcément inintéressant de dévider. Premier sens, alors soyons modestes, le gars qui a du génie. Enfin, génie, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Génie, ça veut dire une disposition naturelle à créer. Alors là, vous voyez, par exemple, regardez l'élève des ponts plongé dans son bouquin avec une coiffure presque à la Beethoven au milieu de l'image. Ça, c'est un gars qui a du génie. C'est une représentation imaginaire de l'école des ponts du XVIIIe siècle. Vous voyez, le mec, là, il pense. Mais en fait, disposition naturelle à inventer, ça veut dire, alors c'est pas forcément Newton, désolé, ou Beethoven, c'est l'homme qui est capable d'emprunter à la nature des idées pour créer. C'est ingenium, donc un génie naturel à créer. D'ailleurs, génie, ça renvoie toujours un peu à cette idée-là. Alors, il y a bien des façons d'être un ingénieur doté de génie. Vous pouvez concevoir des grandes structures. Monsieur Freycinet, avant de donner son nom à des salles et autres, ça a été un des grands constructeurs du XXe siècle. Il a construit des choses très étonnantes, comme par exemple le hangar de dirigeables d'Orly, aujourd'hui disparu. Vous pouvez être aussi le gars d'une idée. Gustave Eiffel, contrairement à la légende, c'est pas lui qui a eu l'idée de la tour. C'est en fait trois de ses employés, le Crobar sur la droite. C'est trois de ses employés qui avaient trop bu à un café, se sont dit « Ah, si on faisait une tour de 300 mètres de haut, histoire de fêter le centenaire de la Révolution française au moment de l'exposition universelle de 1889. » Alors, il n'a pas eu cette idée, Gustave, mais il a eu une idée brillante, c'est que c'était quand même un vachement bon truc. Et donc, il a racheté l'idée à ses collaborateurs, et ensuite, il a réussi surtout à convaincre le gouvernement, la ville de Paris, etc., de réaliser ce truc-là, qui était quand même pas évident à l'époque de réaliser un pylône en fer de 300 mètres de haut au milieu de Paris. Et en fait, c'était aussi un très grand entrepreneur. Et construire ce truc-là, c'était pas non plus totalement du gâteau. Donc vous voyez, ça peut être aussi ça, un ingénieur doté de génie. Ou alors, pour être vraiment un entrepreneur, quelqu'un que vous avez sans doute jamais entendu parler, Monsieur Paulin Talabot, c'est un homme qui a créé l'une des compagnies de chemin de fer les plus importantes du 19e, le Paris-Lyon-Marseille, le PLM, qui avait son siège à la gare de Lyon, qui a aussi modernisé le port de Marseille. S'il y a des Marseillais parmi vous, le port du 19e de Marseille, c'est dans une grande partie une œuvre de Paulin Talabot, qui ensuite a créé des compagnies de bateaux vers l'Algérie, des chemins de fer et des mines en Algérie. Donc un gars qui a créé un véritable système à l'échelle, finalement, du monde, un système d'entreprise, de circulation, etc. Donc il y a bien des façons d'être un ingénieur, d'être un créateur et idéalement, je dirais, un créateur visionnaire. Une des choses qu'on a eu un peu tendance à oublier dans les grandes écoles et vers lesquelles on revient aujourd'hui, c'est cette idée de création. C'est-à-dire, pendant un temps, on s'est dit finalement, les grandes écoles, ça fournit des cadres supérieurs. En fait, c'était censé produire un peu plus, c'est-à-dire des cadres supérieurs créateurs, et créateurs d'idées, créateurs de valeurs, etc. Et si aujourd'hui on vous bassine à nouveau avec l'entrepreneuriat, etc., c'est un peu lié à un retour à ces idées-là. Alors, donc, encore une fois, cette idée de créateur est importante. Deuxième idée importante quand même, je vous disais, quelqu'un qui puise dans la nature, l'idée que l'ingénieur, c'est quelqu'un qui va chercher dans les ressources de la nature, les lois de la physique, de la mécanique, etc., des idées pour créer. C'est donc un peu une différence. si vous voulez, le gaz HEC n'est pas censé nécessairement aller puiser dans la nature. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui étudie les sciences parce qu'en fait, il s'agit de se servir des sciences pour trouver de l'énergie, trouver des ressources, etc. Alors, continuons sur l'étymologie. En même temps qu'ingénieur, il y a un autre, comme d'homme de génie, il y a un autre sens que vous retrouvez d'ailleurs dans un mot qui a une origine commune avec ingénieur, qui est engin. L'ingénieur, ça va être le gars qui invente des machines et qui sait les faire fonctionner. Par exemple, à la Renaissance, on dit souvent que l'Italie est le premier pays où se développent des ingénieurs au sens moderne. La première chose qu'ils inventent, c'est des machines. Et pendant longtemps, les ingénieurs, c'est plutôt des inventeurs de machines. Ici, vous avez une planche de Tacola, qui a été un des grands ingénieurs de la Renaissance, à l'époque aussi de Léonard de Vinci, etc. Alors, machine, ça va depuis... À la Renaissance, ce qu'on découvre, par exemple, c'est les lois du mouvement... Et on se passionne pour les engrenages, tous ces trucs-là. Après, ben, il y aura bien d'autres machines jusqu'à, par exemple, ici, c'est un des premiers grands calculateurs électroniques. Et le gars qui est debout, c'est un gars qui s'appelle Jay Forrester, qui est un ingénieur du MIT. Alors, beaucoup de ces inventions, de ces machines, ont un rapport au militaire. Parmi les choses que les ingénieurs traînent un peu sans en avoir toujours conscience... C'est en fait une profession qui est née en contact très étroit au départ avec l'art de la guerre. Les machines, c'était des machines de guerre. Progressivement, des machines de guerre, on est passé à la construction, qu'on a conçue comme des grandes machines, et puis progressivement à des tas d'autres domaines. Alors l'ingénieur, c'est quelqu'un qui aime les machines. Du coup, c'est quelqu'un qui a une certaine tendance, des fois, à idéaliser les machines, et même à trouver que les choses qui fonctionnent comme des machines, c'est mieux que les trucs qui fonctionnent de façon un peu bordélique. Les ingénieurs, du coup, ont souvent des tentations, finalement, de considérer « et si on gérait la société rationnellement, comme on peut gérer les usines et comme les machines fonctionnent, etc. ?» Tentation qu'on qualifie parfois de technocratique, c'est-à-dire l'idée, finalement, que ben, ça serait mieux d'organiser les choses rationnellement. Ça a un certain nombre de liens. Alors, technocratie, contrairement à ce qu'on croit, technocratie, c'est en fait un terme qui vient de l'américain, et c'est en fait un terme qui vient de mouvements d'ingénieurs de l'entre-deux-guerres aux États-Unis, indignés par la façon dont les politiques gèrent le pays, et qui pensent quand même que ça serait mieux si c'était des technocrates, donc ce mouvement qui gère les choses de façon plus efficace, etc. Alors, je vous rassure, ça a foiré, parce qu'en fait, c'est pas toujours très bon d'avoir trop d'ingénieurs dans la politique, parce qu'ils sont un peu psychorigides. Et ça, j'y reviendrai. Vous avez hérité de vos années de prépa, la plupart d'entre vous, une légère tendance à la psychorigidité. Par rapport au littéraire, si vous voulez, quand vous apprenez en général le langage et que le langage, vous apprenez une suite infinie de variations, de trucs en gris, etc. Dans vos études, on vous a habitué, par exemple, à vous noter à barré de rouge si le résultat était faux. Donc, on vous habituait à l'idée qu'il y avait des choses vraies et des choses justes et des choses fausses. Dans la vie, vous avez souvent des trucs entre les deux. Vous avez aussi des choses vraies, mais en fait, ça marche pas parce que les gens en veulent pas. Donc, il vaut mieux faire des trucs faux. Et vous avez des tas de choses du genre. Du coup, d'ailleurs, il y a un problème souvent ingénieur-société. Ça a été pendant très longtemps. Les ingénieurs, par exemple, c'était des gars formidables pour faire marcher les usines. C'était des gars encore plus formidables pour déclencher des grèves parce qu'ils savaient pas négocier. Et donc, il y a eu tout. Si on fait des sciences sociales dans les écoles d'ingénieurs, faut pas vous faire d'illusions. C'est parce qu'on a essayé de pallier ce problème qui s'est posé pendant très longtemps. Les ingénieurs ont parfois tendance à être un peu rigides en matière politique et sociale. Alors, ingénieur, ça a d'autres sens au-delà de l'homme d'engin, etc. Ça aussi, le gars qui sait raisonner, qui sait de même façon qu'on peut expliquer comment marche une machine, on peut donner les raisons, et de bonnes raisons, pour ce qu'on fait. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est censé être capable d'expliquer, pour peu que la personne en face ait les compétences, pourquoi il prend telle décision et pas telle autre. Ce qui s'est beaucoup compliqué, je vais revenir ces dernières années, parce que vous avez dû noter qu'on est dans des sociétés dans lesquelles les mouvements anti-sciences et anti-technologie sont très forts, et les bonnes raisons scientifiques et techniques ne sont pas nécessairement les raisons que les gens sont prêts à accepter. Je reviendrai, c'est une des causes de la complexité aujourd'hui. Prenez même le réchauffement climatique. Vous avez à peu près 99,9% de la communauté scientifique qui dit que. Puis vous avez des gens qui disent « Oh ben moi, je suis pas convaincu. » Point à la ligne. Et ça va plus loin. Donc vous voyez, essayer d'expliquer les bonnes raisons, ça peut être devenu parfois un peu compliqué. Alors il y a un dernier sens. Alors les ingénieurs, du coup, d'ailleurs, aiment beaucoup aussi, vont être très souvent, on en reparlera à propos des utopies. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont été des utopistes. Celui-là, l'attraction phalanstérienne, c'est ce qu'on appelle un fourriériste au 19e, qui croit qu'on peut... la société serait mieux organisée par village, si vous voulez, de taille limitée, etc. C'est assez courant chez les ingénieurs d'avoir ce genre d'idée, il n'y a qu'à faut que, pour réformer la société. En dernier point, je vous ai dit la tricherie. L'ingénieur, c'est le gars, garçon ou fille, hein, neutre, qui souvent va utiliser des moyens qui ne sont pas les moyens naturels. L'ingénieur, par exemple, c'est au lieu de se taper dessus directement, on va dessiner des machines qui vont permettre de taper plus effectivement sur l'adversaire. Ce qui fait que peut-être le premier ingénieur à cet égard, c'est Ulysse. Parce que finalement, prenez la guerre de Troie. Pendant longtemps, vous avez des grands héros, très très bons en bataille, Achille, Hector, tout ça, ils se tapent sur la figure, ils meurent pas, on tue leurs copains, etc. Rien ne se passe, Troie tourne toujours pas. Et vous avez Ulysse qui imagine le cheval. Et le cheval de Troie, c'est une machine, et c'est en fait, il triche. Mais ça marche. L'ingénieur, c'est le gars, bah, on pourrait dire une autre histoire du même genre, finalement, c'est David et sa fronde face au géant Goliath, c'est-à-dire c'est une façon d'utiliser les machines pour en fait rebattre les cartes par rapport aux équilibres des choses en puissance. Du coup, l'ingénieur, c'est toujours une figure un peu mixte. Les machines, on peut les dessiner pour le bien, mais on peut aussi le dessiner pour le mal. J'y reviendrai dans une autre séance. Vous avez des ingénieurs qui ont cru bien faire, entre guillemets, en dimensionnant les tuyaux des chambres à gaz. On a les documents aujourd'hui. Si, si, il y a des ingénieurs allemands qui ont bossé et qui ont dimensionné les tuyaux des chambres à gaz. C'était pas forcément une bonne chose. Mais les mecs, ils pensaient que c'était vachement bien de que ça soit efficace, qu'on perde pas trop de fluide, de combustible, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, bah, les machines, ça peut aller dans toutes sortes de sens. Les enjeux de la professionnalisation. C'est quand même ça, c'est important de comprendre, s'il vous plaît. Les enjeux de la professionnalisation, c'est important de comprendre finalement qu'est-ce qui va se jouer dans cette histoire d'ingénieur dès la Renaissance, on dirait, jusqu'au 19e, 20e siècle. Alors c'est un mouvement de fond. Qu'est-ce que ça veut dire une profession? Vous pouvez avoir des figures avant qui émergent. Par exemple, on ne peut pas dire que les sculpteurs, ça soit une profession. Par contre, vous avez des figures de sculpteurs, des grands artistes ou des petits artistes, mais c'est des figures. Une profession, c'est quoi? C'est un groupe organisé auquel la société reconnaît une certaine compétence. Il n'y a pas de profession sans groupe, mais un groupe qui n'est pas un groupe simplement qui s'est formé comme ça, qui a des règles, et auquel quand même la société reconnaît une compétence. Les médecins, par exemple, c'est un groupe, et la société reconnaît aux membres de ce groupe que c'est des médecins. Alors ça passe évidemment par la maîtrise de savoir et de savoir-faire, et qui s'exerce dans un domaine, et vous, en tant que médecin, vous n'êtes pas censé avoir nécessairement des idées brillantes en peinture ou en ingénierie, etc. Donc, il faut un domaine de compétences avec des savoirs et des savoir-faire. Alors du coup, se pose toute une série de problèmes qui vont être les problèmes que vont rencontrer les ingénieurs. Comment est-ce qu'on rentre dans la profession? Mine de rien, c'est quoi la barrière à l'entrée? Et ça, parce que sinon, vous voulez, c'est le problème éternel des médecins. Tout le monde pourrait se dire médecin. Donc, comment on régule ça? Et vous voyez, des coups se commencent à se préciser des questions du genre formation, diplôme, machin, etc. Deuxième question, on délimite comment? C'est-à-dire, ça s'arrête où la médecine et où commencent d'autres domaines annexes? Est-ce que être kinésithérapeute, c'est la même chose qu'être médecin? Etc. Avec parfois des frontières, par exemple en France, entre les sages-femmes et les médecins, ça a été une bagarre pendant très longtemps, et c'est plutôt les médecins qui ont gagné. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on accouche plutôt avec des médecins, même s'il y a encore des sages-femmes, etc. Et vous voyez, ces bagarres, vous prenez par exemple la pharmacie, C'est clair que c'est un domaine qui a été constamment contesté, etc. Qu'est-ce que les pharmaciens vendent et qu'est-ce qu'ils ont droit de vendre? Qu'est-ce qui est réservé aux pharmaciens, etc. Alors du coup, vous avez plein de façons de répondre à ces questions. Par exemple, en France, clairement, même si le diplôme n'est pas protégé, je vais y revenir, mais le diplôme, c'est quand même sortir d'une école, entre guillemets, d'ingénieur, d'une formation d'ingénieur, c'est tout à fait fondamental. Eh bien, ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, vous, d'ailleurs, c'est pareil pour les architectes, vous n'êtes pas ingénieur si vous n'appartenez pas à une association professionnelle. Dans une association d'ingénieurs, on verra pour les raisons historiques pour lesquelles ça s'est développé. Du coup, vous pouvez avoir un très beau diplôme d'ingénieur, mais si vous n'avez pas exercé, vous n'êtes pas ingénieur, vraiment. Du coup, cette question, finalement, de comment on régule, ce n'est pas une question qui a une réponse universelle. Et vous prenez en France... Ben les architectes, ce n'est pas régulé de la même façon que les ingénieurs, pour prendre quelques exemples. Alors, du coup, ah oui, alors en France, du coup, c'est très particulier, c'est-à-dire que chez les architectes, vous avez une protection du diplôme. Ce qui fait qu'en France, quand vous êtes architecte, vous êtes DPLG, diplômé par le gouvernement. En France, curieusement, même si on a une formation complètement centrée sur... on a un système centré sur la formation, c'est pas votre diplôme qui est protégé, c'est votre titre. C'est-à-dire que vous avez une liste de diplômes qui donnent le titre d'ingénieur. Et donc en France, et cette liste, elle est établie et protégée. Vous n'avez pas le droit, en fait, de décider que vous créez une école qui va donner le titre d'ingénieur. Ça, c'est interdit. Donc, vous voyez, vous pouvez être ingénieur commercial, mais ingénieur tout court, c'est protégé. Et ça, c'est quelque chose qui va se négocier très lentement et qui se négociera notamment dans l'entre-deux-guerres, où il y a en fait un problème de... Il y a beaucoup de petites écoles qui se créent sans contrôle aucun, et il va y avoir un espèce de on va mettre un espèce de sas pour verrouiller un peu les choses. Et donc, vous voyez, c'est des choses qui se négocient. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire, dans une grande mesure, de la professionnalisation, de la transformation de gens qui, au départ, sont des gens complètement isolés, en des groupes constitués, etc. Et l'École des Ponts, par exemple, en France, va jouer un rôle dans cette émergence de la profession. Alors, autre chose qui est importante, c'est évidemment, une profession, ça va de pair avec un sentiment d'appartenance. Si vous êtes médecin, bah vous prêtez serment, etc. Ça va de pair avec l'idée que vous appartenez. Et appartenir, c'est quelque chose qui est en partie idéologique. Alors, chez nous, d'ailleurs, c'est très plutôt idéologique. Les anglo-saxons préfèrent parler d'éthique professionnelle. Pourquoi, d'ailleurs? C'est parce que chez les pays anglo-saxons, les premières professions à émerger très clairement, c'est des professions qui ont des rapports très directs avec l'éthique professionnelle. Il y a le clergé, par exemple. Les écoles, les clergymen du protestantisme sont en fait conçus comme une profession. Ça paraît bizarre. Du coup, ils se forment dans des écoles de théologie. Et il y a encore, dans beaucoup de grandes universités américaines, il y a des écoles de théologie. Par exemple, à Harvard, il y a une Divinity School qui, aujourd'hui, ne forme plus que des pasteurs. Vous pouvez vous former au bouddhisme, etc. Mais c'est lié à ce côté professionnel. Les autres professions, c'est le droit. Là aussi, il y a un aspect éthique, la médecine, qui sont les noyaux des professions dans les pays anglo-saxons. Alors, les traditions, le folklore... Bon, par exemple, vous croyez avec votre sweatshirt bleu que ça n'a pas d'histoire. Bah, si, ça a une histoire. Qu'est-ce que vous faites en mettant votre sweatshirt bleu? C'est « Hey, I'm from the Ponts et Chaussées ». Et en fait, vous êtes complètement en train de rentrer dans le moule idéologique qui est... D'ailleurs, on veut que vous l'acquériez. C'est-à-dire, on veut qu'à la sortie de l'école, un, vous soyez fiers d'être sorti de l'École des Ponts. Deux, que si vous voyez des jeunes de l'École des Ponts, vous ayez de la sympathie pour eux, etc., parce que ça participe de la valeur du diplôme. Et donc, en fait, tous ces trucs qui sont rattachés à l'exercice d'une profession. Au XIXe siècle, d'ailleurs, soit dit en passant, vous auriez porté un uniforme. Ça participait exactement de la même logique. Même les élèves civils des Ponts avaient un uniforme. Donc, j'aurais devant moi une marée de gens en bleu. L'uniforme était bleu, d'ailleurs. Et donc, vous voyez, ces aspects sont tout à fait importants, avec aussi les côtés... L'une des raisons pour lesquelles il y a eu des bizutages dont les arts et métiers portent encore la marque, etc. Les bizutages, la campagne du BDE, tous ces machins, etc. Bah, ça participe aussi de cette fabrication du groupe qui est fondamentale. Bien. Alors, vous voyez, par exemple, ça, si vous aviez été centralien au 19e, vous auriez été en classe dans cette tenue. C'était pas forcément toujours commode, mais voilà. Bon, alors on va maintenant essayer de parler donc un peu historiquement comment tout ça a émergé. Ben, j'ai parlé de la Renaissance. À la Renaissance, ce qui émerge, c'est en fait des séries de gens qui se disent, qui commencent à se qualifier d'ingénieurs, parfois d'ailleurs dans une certaine absence de distinction avec architectes. Par exemple, Brunelleschi, qui est connu comme le père fondateur de la profession moderne d'architecte en Italie, est aussi considéré comme un ingénieur. Brunelleschi, il y en a qui ont été à Florence, c'est le gars qui construit le dôme de Florence, et il a surtout... Bon, le dôme, il est très beau, il est très bien dessiné, etc., c'est magnifique, mais le truc qui réussit, que personne n'avait été capable de faire, c'est qu'en fait, ces crétins à Florence, ils avaient construit leur cathédrale, et puis ils avaient laissé un grand trou à la croisée des transepts, en disant « ça va se démerder ». Et puis le trou était vraiment grand, et donc il y avait une compétition pour savoir comment construire quelque chose à la croisée des transepts de la cathédrale de Florence. Et Brunelleschi réussit à proposer la construction d'un dôme sans échafaudage qui descend jusqu'au sol. Et donc avec une série de machines assez complexes pour construire ce dôme à partir des voûtes de la cathédrale. Donc un truc assez compliqué. Bon, je ne vais pas vous révéler, en fait, ce que comprend Brunelleschi, c'est que les anneaux de maçonnerie, une fois qu'ils sont complets, se stabilisent, etc. Donc il comprend certains aspects, disons, du caractère autobutant des voûtes, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Alors, vous avez toute une série de gens qui vont se réclamer, finalement, de l'invention aussi de machines, comme Brunelleschi, par exemple Léonard, est un ingénieur en ce sens-là. C'est pas d'ailleurs, contrairement à la légende, un ingénieur génial. En fait, les 9/10 des machines de Léonard ont été pompées sur certains de ses collègues, etc. C'est pas, il a des idées, c'est un extraordinaire dessinateur, il a des idées et une capacité d'observation hors norme, mais c'est pas un génie de la technique. L'ingénieur, quand je dis artiste, c'est une personne isolée qui a un art, il sait faire des choses. Léonard, d'ailleurs, est l'auteur d'une lettre extraordinaire quand il veut se vendre avant d'aller chez le roi de France, parce que quand vous êtes ingénieur comme ça, sans profession et tout, eh ben, faut vous vendre un peu comme un artiste, au plus offrant. Donc, il écrit au duc de Milan en disant « je sais faire des tas de trucs, je sais faire de la fortification, je sais faire des canons, je sais faire des constructions ». Il mentionne en passant qu'il sait faire de la peinture, mais c'est pas quand même ce pourquoi, a priori, etc. Puis il dit « et puis je sais faire des secrets merveilleux ». On sait pas très bien ce que c'est que les secrets merveilleux de Léonard, mais en tout cas, il savait faire des secrets merveilleux, à côté des feux d'artifice, parce que aussi le feu d'artifice, c'était un truc d'ingénieur pendant longtemps. En tout cas, les ingénieurs, c'est aussi très souvent, je disais artistes, aussi des artistes au sens courant. C'est très courant à la Renaissance d'avoir des ingénieurs qui sont aussi peintres, sculpteurs, etc. Et souvent, les sculpteurs, c'est des gens qui ont des notions d'ingénierie. Ici, c'est un tableau de la cité idéale d'un gars qui est un architecte ingénieur de la Renaissance. Donc, c'est assez typique de l'époque. Alors, ça va commencer à se spécialiser un peu, notamment dans des pays comme la France, à travers un domaine qui va être la fortification. Pourquoi ? Parce que les grands États territoriaux comme la France, l'Autriche, etc., vont commencer à se doter de forteresses. C'est ce qu'il y a de plus cher à construire à l'époque. Et on va commencer à avoir des ingénieurs spécialisés dans les fortifications. Les fortifications, c'est aussi les premiers ouvrages qu'on n'ait jamais calculés rigoureusement. Vous savez que la forme pentagonale des bastions, c'est lié au fait de la suppression de l'angle mort dans le tir du canon, dans le tir au canon. Et en fait, par exemple, la portée des, la longueur des murs, etc., est liée à la portée des armes. Donc, en fait, tout est calculé et ça va devenir un domaine d'ingénieur. Ça va devenir un domaine d'ingénieur avec d'ailleurs des différences. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on construit peu de fortifications. Du coup, les ingénieurs anglais resteront plus mécaniciens que fortification. En France, les ingénieurs vont devenir tout d'un coup plutôt des constructeurs et pas des concepteurs de machines. Ce qui fait qu'au XVIIIe siècle, lorsque les machines à vapeur arrivent en France, c'est pas des ingénieurs qui s'en occupent, c'est ce qu'on appelle des mécaniciens. Donc vous voyez, truc un peu bizarre selon les pays. Je passe là-dessus. Bon, la fortification, ça va entraîner des tas d'autres choses qui vont progressivement s'agréger, par exemple la cartographie, mais aussi l'hydraulique, parce qu'il y a les fossés, etc. Alors progressivement, très progressivement, on va commencer à se dire que ce serait pas mal, notamment en France, d'unifier le statut de ces ingénieurs. Et Vauban, à la fin du XVIIe siècle, va créer le premier corps d'ingénieurs, qui va s'appeler le corps des ingénieurs du roi, qui va être en fait, il va donner le même statut aux gens qui font des fortifications. Alors ils sont encore recrutés au coup par coup, il n'y a pas de mode de recrutement, etc. Mais on commence à aller vers ça. Alors une chose que je n'ai pas dite, mais qui est fondamentale pour comprendre cette croissance des ingénieurs en Occident, parce que l'Occident est très loin d'avoir le monopole de ces figures-là, de gens qui connaissent de la technique, au croisement un peu avec des sciences, etc. Par exemple, vous prenez les pays de confession musulmane, vous avez ce qu'on appelle les mouhandis, qui sont en fait des spécialistes d'hydraulique, tout à fait remarquables. Ça, c'est une grande noria en Syrie. En Iran, vous avez la même chose, des grands hydrauliciens, etc. Alors, le truc dont je n'ai pas parlé, qui va jouer un rôle aussi très fondamental, c'est l'idée de séparation entre la conception et l'exécution. Au Moyen-Âge, sur les cathédrales, le gars qui dessine la cathédrale, c'est pas un gars complètement séparé des ouvriers, c'est le premier des ouvriers, si vous voulez. Ce que va inventer la Renaissance avec ses architectes et ses ingénieurs, ses artistes, c'est en fait des gens qui conçoivent à l'écart du chantier et qui ensuite amènent leurs dessins sur le chantier et disent aux autres comment on doit faire. Donc ça, c'est très important. Je dirais, si vous êtes dans une école qui a des prétentions intellectuelles, ça vient de là. C'est-à-dire qu'en France, en Italie, etc., l'ingénieur, ça sera le gars qui a plutôt vocation à parler aux humanistes, aux philosophes, aux savants, qu'à être le copain des ouvriers. Et du coup, d'ailleurs, ça va aller de pair avec progressivement s'imposer aux ouvriers comme le gars qui leur dit ce qu'il doit faire. Vous me suivez toujours? Du coup, d'ailleurs, avec un clivage, si vous voulez, qui va devenir vite de clivage intellectuel, un clivage social. C'est ce qui va manquer, entre guillemets, parce que ça va aussi avoir des avantages sur certaines choses, dans les pays, par exemple, musulmans ou en Inde, etc., où les techniciens ne vont jamais se couper du monde des métiers. En France, il va y avoir cette coupure, en Angleterre, en Italie et en Occident, qui est une coupure fondatrice de l'ingénierie moderne. Les architectes vont faire la même chose, d'ailleurs. Les architectes vont cesser d'être les premiers sur le chantier, mais être en fait les gens qui dessinent en dehors du chantier. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est important à comprendre, parce que d'une certaine façon, si je vous bassine les oreilles aujourd'hui, c'est « guess what ?». Vous êtes censé acquérir une formation intellectuelle. Si, si, ça paraît incroyable. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, pourquoi donner à des ingénieurs une formation intellectuelle? L'idée, c'est qu'en fait, en tant qu'ingénieur, vous êtes des intellectuels. Alors peut-être pas au sens de Finkielkraut, n'allez pas vous répandre dans le Figaro ou dans les débats sur toutes sortes de questions, mais vous êtes censés être des gens qui font fonctionner leur cerveau et à la limite, beaucoup moins leurs mains, etc. Il y a encore des formations dans lesquelles on vous fait passer, il y en a même encore pas mal, mais quasiment tout ce que vous allez faire de vraiment manuel dans votre formation, ça va être un vague stage ouvrier, où votre principal problème sera de vous lever tôt le matin. Mais en fait, ça vient de là. Bien, étape suivante. 18e siècle, vous allez avoir la naissance dans deux pays de profession. Et ça va s'organiser de façon différente et ça va laisser des traces jusqu'à aujourd'hui. En France, on a un corps d'ingénieurs des fortifications à la fin du XVIIe siècle. Sur ce modèle-là, on va créer des corps d'ingénieurs de l'État. Notamment, en 1716, on va créer un corps d'ingénieurs des ponts et chaussées qui va être chargé de la construction des routes et des ponts. Avec, d'ailleurs, l'image est sympathique, en fait, les paysans haïssent les ingénieurs des ponts jusqu'à la fin du XVIIIe. Pour une raison simple, c'est qu'en France, l'État n'a pas d'argent. Les impôts ne rentrent pas, etc. Du coup, la seule façon de construire les routes, c'est la corvée. Du coup, en 1789, dans les cahiers de doléances, le premier truc que demandent les paysans, c'est débarrassez-nous des ingénieurs des ponts. Parce que grosso modo, l'ingénieur des ponts, c'est le gars qui arrive en mars-avril et qui dit, les gars, bon, là, on va arrêter un peu les travaux des champs, on va aller casser des cailloux pour faire la route. Et donc, pas du tout populaire, etc. Donc, corps des ponts et chaussées, on va créer un corps des mines. Un peu plus tard, on va créer un corps de constructeurs de vaisseaux. Donc, une filiation dans laquelle l'État est la matrice de la profession d'ingénieur. On va voir, c'est très différent de l'Angleterre et des États-Unis. On passe de l'autre côté de la Manche. En Angleterre, vous n'allez pas du tout avoir ça. L'État ne va pas s'occuper des ingénieurs. Les ingénieurs, ils vont émerger dans le privé comme des gens au service des entrepreneurs, des gens qui ont de l'argent, ils vont dessiner des canaux, etc. Par exemple, il y a un gars qui dessine un canal pour un duc qui a des mines près de Manchester pour amener le charbon, etc. C'est plutôt ce monde-là. Du coup, les ingénieurs, ils vont s'organiser entre eux. Et vous avez une première compagnie d'ingénieurs qui est créée dans les années 1770-1780, qui s'appelle les Smetsonians, du nom du plus célèbre de leurs ingénieurs. Et puis ensuite, en 1818, va être créée l'Institution of Civil Engineers, qui existe jusqu'à aujourd'hui, et qui va en fait être ingénieur, ça veut dire être adhérent à l'Institution of Civil Engineers. D'accord ? Et en fait, le modèle anglo-saxon est un modèle qui n'est pas issu de l'État, mais issu du privé, et qui va passer par la création de corps, mais par la création d'associations professionnelles. Aux États-Unis aussi, mais aussi dans les pays un peu hybrides comme le Canada. Au Canada, vous n'êtes pas vraiment ingénieur, tant que vous n'êtes pas dans une association professionnelle. Ça explique une chose, vous arrivez avec votre diplôme outre-Atlantique, eh ben, ça ne sert à rien. Il faut être accepté dans une association professionnelle. Ça va ? Bien. Alors en France, ça va avoir... Alors ça, c'est un tableau un peu mythique des pères fondateurs de l'Institution of Civil Engineers. Ensuite, il y aura d'autres associations professionnelles. Par exemple, l'Institution of Civil Engineers, c'est la seule en 1818, où le génie civil s'est construit. D'ailleurs, c'est pas civil, c'est au sens des ingénieurs privés. Ça conçoit, c'est aussi les gens qui font des machines, etc. En 1840 et des poussières, vous aurez une Institution of Mechanical Engineers, ensuite une Institution of Electric Engineers, etc. Alors, en France, eh ben, ça va aller de pair avec un truc dont vous êtes encore les héritiers. C'est qu'en fait, on va créer des écoles pour réguler l'entrée dans les corps de l'État. Et ça va commencer, en fait, par l'école, ça va commencer par le corps des ponts. Le corps des ponts, au départ, on recrute un peu comme ça, etc. Puis en 1747, on va créer une structure pour recruter des jeunes qui semblent doués de quelques talents. Donc ce fameux génie, et en fait pour voir si les meilleurs d'entre eux rentrent dans le corps des ponts, etc. Alors l'école des ponts, alors ensuite vont être créés 1748 les ingénieurs des fortifications qui étaient un peu plus anciens, vont se dire quand même de quoi, si les ponts ont une école, on va aussi créer une école, ils vont créer une école à Mézières qui est l'école de fortification, ensuite l'école des mines en 1783, et enfin l'école polytechnique dont je reparlerai en 1794. Donc vous voyez un modèle école. Alors que dans les pays anglo-saxons, le modèle de formation, ce sera l'apprentissage. C'est-à-dire que très grosso modo, vous allez vous mettre comme apprenti. C'est très cher, l'apprentissage, en fait. C'est pas bon marché. Donc ça veut pas dire que vous êtes un prolo. Tout au contraire. Vous mettez comme apprenti. Il faut que le gars vous accepte chez un ingénieur. Et au bout de quelques années, l'ingénieur vous présente à l'association des ingénieurs en considérant que vous avez fait vos classes. Ça a comme conséquence l'héritage de ça. Aujourd'hui, c'est la licence d'exercice. Les pays à licence d'exercice, c'est en général des pays qui ont connu plutôt des modes de formation centrés sur l'apprentissage pendant longtemps. Donc vous voyez des modes assez différents. Du coup, dans les écoles, très vite, en France, on va faire un peu plus de sciences, alors que l'apprentissage restera longtemps plus empirique, etc. Ça se répercute jusqu'à aujourd'hui. Les ingénieurs anglais sont moins matheux que les ingénieurs français. Personne, en général, en dehors de la France, ne comprend pourquoi on vous fait avaler autant de maths. Mais alors ça, comme avantage, c'est qu'ensuite, vous pouvez aller faire des choses liées aux maths. Mais en fait, c'est quelque chose qui est un héritage historique. Je vais y revenir dans un instant. Alors, à l'école des ponts, au 18e, c'est pas très matheux. Hein. C'est une école, quand même, faut vous dire une chose. C'est une petite école, c'est-à-dire très grosso modo, on recrute 30 personnes, 40 personnes par an, et grosso modo, on en jette les deux tiers. Il y a très peu de professeurs, et on fait énormément de concours, de dessins, de cartes, de ponts, etc. Et on se forme sur le tas, il y a peu de classes, c'est-à-dire que les plus âgés enseignent aux autres les rudiments, etc. Donc on doit apprendre le dessin, on est encore formé comme des artistes, ça c'est un dessin d'un élève du 18e, pour un concours. Il y a des concours de dessin à l'école des ponts. Ensuite on fait des concours de ponts, proprement dit, puis ça rapporte des points, et si vous avez assez de points, au bout d'un nombre d'années indéfinies, parce que pour rester à l'école des ponts 3 ans, comme vous pouvez y rester 10 ans, eh ben, soit on vous vire, soit on vous admet dans le corps des ponts. Ça a comme avantage, c'est qu'en fait, ça bosse, relativement. C'est-à-dire que si vous voulez survivre, c'est un des problèmes aujourd'hui des grandes écoles, c'est quand même, grosso modo, la moitié d'entre vous arrive déjà fatigué de la prépa, et en se disant, je suis rentré dans un club prestigieux, et donc essayons d'en faire le moins possible. Non, mais bon, je ne fais pas d'illusions. Hein. Mais, alors, détrompez-vous, c'est quand même une erreur. Hein. Ça va devenir de plus en plus une erreur pour des raisons sur lesquelles je vais revenir dans un moment. Parce que si j'ai un conseil à vous donner, il vaudrait mieux se mettre à bosser. Parce que le reste de la planète bosse comme des malades dans les études d'ingénieurs. Et vous allez vos générations, vous allez être en compétition directe, par exemple, avec les gars formés en Inde dans les instituts de technologie, et croyez-moi, ils bossent. Donc, sans parler des Américains et des Chinois. Donc, il va falloir se réveiller. Alors, l'école des ponts, j'ai parlé d'idéologie. Une des forces de l'école des ponts du 18e, elle n'est pas très scientifique, on fait plus de dessins. Mais par contre, on pense qu'on est dans le sens de l'histoire, qu'on va transformer la planète. Et ces fameuses cartes que vous avez dû voir dans les couloirs parfois, sont une espèce de carte idéale d'un monde complètement transformé par l'ingénieur, avec des routes partout. Alors là, au centre, d'ailleurs, vous avez le portrait du directeur de l'école des ponts, Perronnet. Ça peut toujours servir dans un concours de mettre mon portrait, etc. On n'hésite pas à failloter tant qu'on peut, ainsi de suite. Et puis, ça, c'est une représentation imaginaire qui, en fait, renseigne sur c'est quoi l'ambition. En fait, c'est une représentation imaginaire centrée sur la façon traditionnelle dont on représentait les académies. Genre l'Académie des sciences, etc. Comme si l'école, une école d'ingénieurs, c'était une académie des sciences appliquées. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez fort, etc. Alors, l'école polytechnique va amener une nouvelle rupture. L'école des ponts, c'est « et on va former les étudiants dans des écoles ». On fera un peu de sciences, mais enfin, l'école des ponts, ça va pas tellement plus loin que les coniques au XVIIIe siècle. Mais en 1794, on va avoir une idée encore plus baroque. On va former les ingénieurs au contact direct de la science la plus avancée. Et on va faire venir des gens comme Monge, comme Lagrange, comme etc., pour enseigner le top des sciences. Et du coup, va se préciser un truc que personne n'attendait, c'est de cette bonne vieille profession d'ingénieur artiste vont sortir des gens en dialogue avec les sciences. Et ça, c'était pas du tout évident au départ. Alors, à partir de là, vous avez deux grands modèles. Un modèle français, corps, école, rapport progressif à la science, etc., qui se constitue. L'école polytechnique va être une espèce de révélation pour beaucoup de gens. Tiens, ça marche, ce truc, même si c'est bizarre, etc. Avec d'ailleurs des conséquences. Une des raisons pour lesquelles vous faites autant de maths, c'est pas uniquement des raisons parce qu'on croit aux maths, c'est aussi parce que les maths, ça permet de sélectionner. Et qu'en fait, un système d'État dans lequel il y a peu de place, c'est un système dans lequel la sélection est extrêmement importante. Et dans lequel c'est une sélection non darwinienne classique, c'est une sélection entre guillemets par le mérite. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes ici, pas parce que vous avez tué votre grand-tante, etc., vous êtes ici, c'est pas nature in red tooth and claw, c'est vous êtes ici parce que vous êtes censé être les meilleurs, entre guillemets. Bon, vous n'avez pas fait polytechnique pour la plupart d'entre vous, donc c'est pas parfait, mais... C'est bien quand même, hein, bon. Puis pensez le mépris avec lequel... Le système, d'ailleurs, va se créer comme un système un peu hiérarchisé. On a toujours réussi quelque chose et raté quelque chose. C'est très français. Et les maths, ça va jouer un rôle là-dedans. C'est en fait assez aberrant de se dire qu'on recrute des gens dans une école appelée École des Ponts et Chaussées à cause des maths. Mais en fait, ça participe aussi de ce système. Ça va ? Bien. Système anglais, système sélectif aussi, mais pas de la même façon. L'argent, curieusement, va jouer un rôle plus important parce que l'apprentissage, encore une fois, c'est cher. Un système dans lequel vous êtes quand même plus livré à vous-même, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre apprentissage, vous démerdez pour trouver des clients, etc. Et donc un système dans lequel vous adhérez à des associations. Donc il y a un système beaucoup plus en prise. Du coup, ingénieur d'État, ça veut dire des commandes publiques. Ingénieur privé, ça veut dire qu'on est beaucoup plus en prise sur l'économie, le monde de l'entreprise, etc. Et ça, ça va avoir pendant longtemps des répercussions. L'ingénieur français est un ingénieur souvent plus loin de l'entreprise pendant assez longtemps que l'ingénieur anglo-saxon. Et puis ces modèles vont se diffuser un peu partout. Vous avez des pays qui vont pomper directement le modèle anglais, des pays qui vont plutôt prendre le modèle français. Par exemple, l'Espagne va prendre le modèle français et par exemple va créer une école des ponts et chaussées à Madrid. La Russie va aussi créer une école basée sur un mélange école polytechnique, école des ponts et chaussées au début du 19e, etc. Puis vous avez un pays où vous avez une tradition hybride, c'est les États-Unis. Les États-Unis où vous avez en fait les deux modèles qui coexistent pendant très longtemps. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est l'Army Corps of Engineers. C'est en fait les gens formés à West Point en génie militaire. Et en fait, ces gens-là qui sont les grands hydrauliciens du 19e, qui ont une très, très grande importance aux États-Unis du 19e, notamment, c'est les gars qui vont endiguer le Mississippi, etc., qui vont faire des canaux, qui vont faire des tas de constructions, etc., à qui on confiera, après la guerre civile, la reconstruction du Sud. Ces gens-là, en fait, sont formés à la française. Et essayons, qui donne en américain en général essayons, ou Dieu sait quoi, en général, ça ne se reconnaît pas, mais en fait, ça vient du français. Et en fait, à West Point, où on les forme, on utilise les manuels de l'école des ponts. Curieusement, au début du 19e siècle, on les forme vraiment à la française pendant assez longtemps. Alors, ensuite, les écoles, allons plus vite maintenant, les écoles vont se multiplier un peu partout, et parce que finalement, quand même, progressivement, la scolarisation va gagner du terrain. Alors, en France, elles vont se multiplier pour une raison simple, c'est que jusque vers 1820, est ingénieur qu'un gars qui est passé par l'école polytechnique est rentré dans un corps de l'État. C'est assez limitatif. Et vous avez des gens qui font des machines, qui sont dans des entreprises, qui disent « Eh ben nous aussi, on est ingénieurs ». Simplement que comme on est dans un modèle français, polytechniciens ont beau jeu de leur dire « Vous êtes formé où ?» Parce que « ingénieur », ça veut dire « formé » en France. C'est où votre formation ? Et les gars, ils disent « J'ai appris sur le tas, à l'anglaise, ça va ». Alors du coup, on va créer en 1829 une école qui va s'appeler l'école centrale, qui va former des ingénieurs non membres des corps de l'État, des ingénieurs civils à l'anglaise, sauf qu'on va les former suivant le modèle polytechnico, pont, mine, etc., en faisant plein de maths. Alors l'école centrale va quand même essayer d'être plus pratique, appliquée. D'ailleurs, elle s'appelle centrale en référence au premier mois de l'école polytechnique, avant que les maths déferlent, où c'était plus appliqué, etc. Donc cette école centrale va se vouloir une école pour ingénieurs civils. Et progressivement, la profession va commencer un peu à se diversifier, parce que par exemple, à l'école des ponts, vous avez encore, vers 1820, 30 élèves par an. Qui sont. Alors cette fois, ça s'est on les jette plus, parce qu'on les a sélectionnés à partir de l'X, et donc les 30 rentrent dans le corps des ponts, au bout de 3 ans d'école, etc. Puis progressivement, vous allez avoir des élèves qui viennent faire auditeur et qu'on va appeler pendant longtemps élèves externes de l'école des ponts, à qui on ne va pas donner le diplôme, qui seront priés de ne pas s'appeler ingénieurs. Alors ça va prendre 20-30 ans, c'est vos ancêtres en fait, ça va faire 20-30 ans et progressivement on va arriver à considérer ces gens-là comme des êtres humains. Et progressivement leur donner un diplôme. Alors d'abord, ça va s'appeler un certificat d'ancien élève externe de l'école des ponts, vous voyez le côté sexy. Et puis, à la fin, on va vous appeler ingénieur des ponts civils, des ponts et chaussées. Mais je ne sais pas si les casiers sont encore rangés, parce qu'autrefois, à l'école des ponts, c'était sidérant. Quand ma femme a fait un master à l'école des ponts, elle ne revenait pas, parce qu'il y avait les élèves de l'X d'abord, de corps, ensuite les élèves de l'X pas corps, ensuite, c'est toujours comme ça, ou ça s'est quand même un peu amélioré d'un point de vue de la discrimination sociale ? Ça n'existe plus ? Vous n'avez plus de boîte aux lettres ? Bon, Parce que de mon temps, et pendant longtemps, jusqu'il y a 10-15 ans, vous aviez les élèves ingénieurs de l'X rentrés dans le corps des ponts, puis en suite, les élèves de l'X rentrés en temps, alors qu'ils s'appelaient les X, civils ponts, ceux-là. Ensuite, les concours communs. Bah, ça donne encore, il y a des restes de ça, je ne sais pas si vous n'avez pas échappé, vous êtes dans une école qui est quand même l'écrasante majorité, c'est vous, et quand même dirigée encore assez systématiquement, d'ailleurs, je crois, d'après les statuts, par des ingénieurs du corps des ponts. Alors, ce n'est pas pour vous inciter à la révolution, mais c'est là où vous voyez le poids de l'histoire dans ces trucs-là. Donc, en fait, progressivement, la profession va se développer. En Angleterre, vont se créer des formations d'ingénieurs. Grande différence avec la France, en Angleterre, les écoles d'ingénieurs vont se développer dans les universités. Alors qu'en France, elles vont être pendant longtemps hors université. Et alors que Cambridge, par exemple, va créer des formations d'ingénieurs et d'autres encore progressivement. Alors, ça va se scolariser. À l'école des ponts, au 18e, c'était le rêve. On faisait que 4 mois de cours par an. Et le reste du temps, on allait en stage sur le terrain. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est le buste. C'est le buste qui a encochi. C'est en fait la salle de classe de l'école des ponts vers 1830. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. Franchement, ça devait être plus reposant de faire le cours de première année de sciences humaines. Hein. Sauf qu'il n'y en avait pas. Grosso modo, ça va se scolariser progressivement. Avec d'ailleurs le début d'un truc qui va devenir infernal, c'est qu'on va mettre de plus en plus de matière. Parce qu'au début, au 18e, on fait un peu de maths, on fait un peu de méca, très peu, on fait beaucoup de dessin et tout. Puis progressivement, la méca va se développer, l'hydraulique appliquée, etc. Le cursus va devenir de plus en plus chargé. Ça va devenir un problème. Alors, c'est un mouvement mondial. Ça, par exemple, c'est le Polytechnique de Milan. Il va se créer des écoles d'ingénieurs partout dans le monde au cours du 19e siècle, à Milan, à Rio de Janeiro, partout dans ce bas monde, vont se créer des écoles d'ingénieurs. Avec une élévation du niveau, ça, vous n'êtes pas pétri d'émotion devant ce truc-là. Bon, navier, ça vous dit vaguement quelque chose? Ouais. Bon, navier, il y a l'amphi, hein. Puis navier Stoke, vous voyez ça en prépa ou pas, navier Stoke? Oui, il y en a qui l'ont vu. Bon, c'est déjà rassurant. Mais enfin, navier, en 1826, va faire le premier cours moderne de calcul des structures, qui s'appelle « Résumé des leçons données à l'école des ponts et chaussées sur l'application de la mécanique, etc. » C'est un best-seller. C'est le premier cours dans lequel il y a un calcul rigoureux de la flexion des poutres, par exemple. Et c'est un cours qui sera un tel best-seller que, par exemple, on le traduit en anglais, et c'est le manuel de base à West Point pour les ingénieurs du corps des ingénieurs américains. Défi redoutable, les ingénieurs commencent à ressembler à une profession, sauf que malheureusement, ou heureusement pour eux, une profession, ça a un secteur de compétences limité. Le problème, c'est que l'ingénierie explose dans toutes les directions, et que ça devient de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de choses, et que par exemple, le chemin de fer, c'est un truc qui est très compliqué. On ne sait pas au départ qui doit être ingénieur des chemins de fer. Est-ce que c'est les gars? Est-ce que le chemin de fer, c'est un chemin? Et donc c'est du génie civil et c'est les ponts et chaussées, ou est-ce que c'est plutôt une locomotive? Et ça, c'est les gars des mines. Et vous voyez, débat compliqué, et en fait, ça finira par être les deux, avec d'ailleurs plutôt au pont, on fait les viaducs, et aux mines, on s'occupe des locaux. Mais vous vous rendez compte que ces questions, et après va venir l'électricité, l'électronique, tout ça va se compliquer énormément tout au fil du 19e. L'électricité, par exemple, tout d'un coup, on voit apparaître des applications de la science à des domaines dont on n'avait aucune idée que ça puisse être un secteur pour les ingénieurs. Du coup, on va créer des séries d'écoles d'électricité. Supélec en est une, mais il y en a des centaines et des centaines à la fin du 19e siècle. La chimie lourde aussi, on va créer des écoles de chimie, parce que la chimie lourde se développe, etc., etc. Et puis, ça va continuer. Alors, vont émerger, du coup, des questions nouvelles. Questions, par exemple, quid du rapport avec la recherche? Et est-ce qu'il faut former les ingénieurs à la recherche? Pour l'instant, on les formait aux résultats de la recherche. Et ça, il faut avouer que ça va être le grand ratage des écoles françaises. C'est-à-dire, ça ne va pas se faire en France, ça va se faire en Allemagne, où les Allemands vont développer, en fait, des écoles d'ingénieurs en prise sur la recherche et aux États-Unis. Là, vous avez les labos du MIT dans les années 1890, quand l'institut est encore à Boston avant de bouger à Cambridge. Et le MIT est une institution à l'allemande où il y a des labos. En fait, à l'École des Ponts, j'ai le malheur de vous dire, j'ai connu le premier directeur de l'École des Ponts, Pierre Welz, qui était un directeur sans chercheur. Parce qu'à l'époque, il avait un petit bureau, on s'était dit, ça serait pas mal de développer la recherche à l'École des Ponts, mais il n'y avait pas de chercheur à l'époque, ni de labo, ni rien. Et en fait, ça date des années 80. Ça veut dire qu'en fait, les écoles d'ingénieurs françaises, l'École polytechnique, c'est à peine mieux. C'est-à-dire que les écoles françaises se sont mises très, très tardivement à la recherche par rapport à leurs homologues allemandes, américaines ou autres. C'est aussi lié au côté club. C'est-à-dire que pendant longtemps, la vision, c'était je rentre à l'École des Ponts, je rentre dans un club. Finalement, bon, ça veut dire que je suis tellement intelligent que je n'ai pas forcément besoin d'apprendre quelque chose. À la sortie, on se démerdera. Autre question, quid du manager? Parce que seconde moitié du 19e, les entreprises deviennent plus compliquées et apparaissent ce qu'on appelle les fonctions managériales. Du coup, qu'est-ce qu'on forme dans une école d'ingénieurs? Est-ce qu'on forme des techniciens? Est-ce qu'on forme des futurs décideurs? Est-ce qu'un futur décideur, c'est un technicien ou pas? Vous voyez, toutes ces questions vont commencer à se poser. Une figure clé dont on reparlera, c'est Taylor, qui est en fait un ingénieur formé par apprentissage, mais qui va en fait développer un système d'organisation industrielle, le taylorisme, donc, à la fin du 19e. Finalement, l'école aujourd'hui, d'ailleurs, elle porte toujours le poids de ses ambiguïtés. Une des grosses difficultés qu'on a, par exemple, quand j'essaie d'expliquer à des Américains ce qu'est l'école des Ponts, ce qui est déjà... Alors, il y a des gens qui le savent, parce qu'ils connaissent le système français, ou qui connaissent, par exemple, le génie civil. Les 9 dixièmes des gens pensent, par exemple, l'école des Ponts, c'est une école de génie civil. Alors, quand on leur dit non, c'est plus compliqué, des gars qui vont dans la banque, il y a des gars... Alors, ils vont dans la construction, mais pas en tant vraiment qu'ingénieur, ils vont en tant que décideur. Ah oui, puis on a des économistes. Ah oui, puis on a des gars qui font du génie industriel. Plus personne n'y comprend rien. Et est-ce qu'on forme des cadres sup? En fait, expliquer que, ouais, c'est partiellement une école d'ingénieurs, mais il y a aussi des gars qui font plutôt un truc genre MBA, quand même, de facto. Et puis, il y a des gars qui font aussi des trucs qui ne sont pas dans les secteurs traditionnels, puis il y en a qui font rien. Mais, alors, là-dessus, bon, ces questions d'organisation, avec la croissance industrielle du XXe siècle, vont se renforcer. Lorsque Ford, par exemple, va inventer la production de masse, ben, c'est quoi le rôle des ingénieurs dans les usines? Les ingénieurs, il faut dire une chose, ils étaient, jusqu'à la figure de l'ingénieur taylorien organisateur, ils étaient relativement peu présents dans les ateliers. Ils vont le devenir de plus en plus parce que l'organisation des ateliers devient un problème d'ingénierie complexe. Donc, si vous voulez, toutes ces questions-là vont se poser. Alors, et ça va continuer, par exemple, bon, ben, l'informatique, il va y avoir une nouvelle génération. Au point d'ailleurs, alors, j'ai parlé de professionnalisation, ce qui est compliqué avec les ingénieurs, c'est que ça couvre tellement de domaines et que, à la limite, les ingénieurs sont plus très sûrs d'appartenir à une profession. Et c'est ça qui est, parce que on peut être ingénieur de tellement de choses. Et est-ce qu'il y a vraiment des rapports entre un gars qui fait du génie civil et un gars qui fait de l'informatique? Enfin, vous voyez, problème qu'on peut se poser à l'École des Ponts. C'est pas simple. Alors, d'ailleurs, l'école, si vous regardez l'école, ce qu'elle est aujourd'hui, ben, elle est un peu le fruit de cette histoire. Vous partez d'une école au départ, qui est une école pour gens qui vont se destiner à rentrer dans le corps des ponts pour, à la base, construire des routes et des ponts. Et puis au 19e, on rajoute là-dessus une couche de gens qui sont des ingénieurs civils. Alors du coup, ces ingénieurs civils, ça veut dire qu'ils vont travailler dans le privé. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire dans le privé? Et du coup, alors des fois construire des ponts, etc., mais c'est quoi construire dans le privé? Alors ensuite va se compliquer les trucs parce que grâce au chemin de fer, on va créer ce qu'on appelle le pantouflage et les ingénieurs d'État vont aussi pouvoir partir dans le privé au bout de quelques années. Donc vous voyez, tout ça se complique. Ensuite, l'École des Ponts, même notre brave École des Ponts, elle reste dans le génie civil pendant très longtemps, mais vous avez déjà l'École des Ponts des gens qui font plutôt de la mécanique, des gens qui vont s'intéresser au chemin de fer, des gens qui vont s'intéresser à l'hydraulique. Donc le cursus grossit avec ce mythe, cette chose aussi très française de l'école généraliste. C'est qu'en France, plus c'est généraliste, mieux c'est. C'est-à-dire que grosso modo, moins vous êtes compétent dans un domaine, plus vous êtes censé être vachement intelligent globalement. Qui est quand même un truc très français. Hein. Faut bien comprendre ça. C'est très très français. Alors pourquoi le système va perdurer jusqu'à aujourd'hui et vous en êtes les purs descendants? C'est parce qu'il va fonctionner sur un certain nombre de présupposés idéologiques à la française, que je vais essayer de démonter un peu par la suite. Mais un... Et by the way, c'est vrai. Vous êtes tellement sélectionné qu'en général, vous avez la compronette rapide. Ça, c'est vrai. Globalement, je dis souvent, d'ailleurs, globalement, alors je vais vous faire plaisir, mais je pense, ou pas plaisir, d'ailleurs, vous en foutez, mais je pense que la moyenne, disons, d'agilité mentale, etc., dans cette salle est probablement supérieure à la moyenne de l'agilité mentale, même dans le collège à Harvard. En moyenne, vous êtes plus sélectionné à un haut niveau, etc., à un niveau presque aberrant. C'est-à-dire que rentrer à l'école des ponts, aujourd'hui, c'est devenu... Qui avait une mention très bien au bac parmi vous? Bon. Voilà, bon. Voilà. Bon. Bon, allez, après ce moment d'intense satisfaction de l'ego, on se calme. Attendez, la suite est moins plaisante. Du coup, d'ailleurs, vous avez un problème, quand même profond, c'est qu'en général, vous êtes sélectionné sur des critères purement scolaires. Moi, je vous préviens tout de suite, mon fils n'aurait pas pu rentrer à l'école des ponts, mais il n'empêche que c'est un garçon très intelligent, mais vous êtes sélectionné sur des critères purement scolaires, mais des critères qui, par exemple, on peut avoir avec l'idée de l'ingénieur créateur. On ne vous a jamais fait créer quoi que ce soit. Vous êtes en général des gars, si on vous explique un truc relativement compliqué, vous comprenez relativement vite. Vous êtes capable de vous, etc. Donc, vous avez aussi un autre problème, c'est que vous ressemblez beaucoup. Il n'y a rien qui ressemble autant à un ingénieur, à un élève des ponts qu'à un autre élève des ponts. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle obsession. Vous savez, c'est comme les fruits. On veut que les fruits soient calibrés. On ne veut pas d'abricots qui aient des formes aberrantes, etc. Donc, on vous calibre d'une façon où, finalement, il y a peu de diversité. Alors, pour revenir à Harvard, vous avez... dans le top du panier des gens qui seraient largement du niveau de l'école normale, etc., ou qui deviennent des grands violonistes comme Yomama, etc. Vous avez des gars qui sont plutôt des grands artistes, et puis vous avez des gens comme vous, et puis ensuite il y a des tas de gens qui sont moins bons d'un point de vue scolaire, mais qui peuvent être par contre vachement bons dans d'autres domaines. Pourquoi? Parce que le mode de sélection à l'américaine est un mode de sélection obsédé par la diversité. Il faut qu'une promotion, ça soit divers. Alors, en France, on a commencé à faire évoluer. L'une des raisons pour lesquelles on prend tant d'admis sur titre aujourd'hui, c'était pour des raisons de diversification de l'ADN. Parce que vous vous ressemblez tellement que ça pose un peu un problème dans la compétition mondiale. Alors, l'autre truc fondamental, c'est là où on voit le poids de l'histoire, c'est qu'on pense que parce que vous avez fait des maths et des sciences à haut niveau et très rapidement, etc., vous êtes adaptable à peu près n'importe quelle fonction, avec dans l'idée quand même que plus de la moitié d'entre vous iront dans des carrières plutôt de décideurs, entre guillemets, avec une certaine ambiguïté sur la notion de décideur, dans laquelle aussi on dit « vous allez investir votre culture scientifique et technique ». Sauf que vous noterez que la plupart d'entre vous auront une culture scientifique et technique quand même un petit peu lamellaire, pour ne pas dire superficielle. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un système... Alors, parmi les bons côtés, c'est que l'ingénieur français, c'est vrai que c'est un très bon matheux par rapport à la moyenne, et que c'est vrai que du coup, c'est un gars qui est plutôt une forme d'esprit logique, et c'est vrai que quand c'est un problème purement intellectuel, il est en général assez agile. Par contre, vous avez en général un rapport au monde pratique assez faible, quand même être honnête, donc faut pas trop vous demander... Pour vous mettre les mains dans le cambouis, il faut faire ça progressivement... etc., etc. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de cette histoire. Et alors, cette histoire qui a permis aussi, comme on est en France, je vais y revenir, d'un point de vue recrutement social, vous venez, la plupart d'entre vous, des classes privilégiées. Bon, je vais faire mon test habituel chaque année. Papa, cadre supérieur, les mains. Bon. Maman, prof. Voilà, bon, c'était juste petit test. Bon, ça a un certain nombre, vous êtes en général les héritiers, c'est très français, d'un croisement entre capital au sens capitaliste, C'est-à-dire quand même de parents qui ont quand même plus d'argent que la moyenne. Il y a peu d'enfants de gilets jaunes parmi vous, faut être honnête. Hein. C'est pas trop population des ronds-points. Et puis, de capital culturel. Le capital culturel et la proportion non négligeable de mères enseignantes en est un bon syndrome. Si ça peut vous amuser, moi aussi, ma mère était enseignante. Donc, mais bon, j'appartiens à d'autres générations, donc la sociographie n'était pas exactement la même quand même. On a quand même quelques décennies de différence. Mais ça donne à réfléchir. Bon, alors on va passer quand même... Alors bon, juste pour terminer, la France a une histoire aussi très particulière parce que la France va avoir un rapport malthusien aux ingénieurs. Pour comprendre ça, il faut savoir que les guerres ont joué un rôle. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, au lieu de garder les ingénieurs dans les usines, on va les envoyer dans les tranchées. Ça a comme effet deux choses, l'une et l'autre horribles. Première chose horrible, ben, beaucoup de jeunes ingénieurs meurent. Regardez l'obélisque dans la cour. Vous verrez qu'il y a quand même un nombre. L'école des ponts n'était pas encore une grosse structure à l'époque. Il y a beaucoup de morts. Et du coup, d'ailleurs, les écoles au sens traditionnel fonctionnent mal par rapport à ça pour recréer rapidement des ingénieurs. Du coup, il va y avoir un truc encore plus horrible. On va admettre comme ingénieurs vraiment des gens qui n'ont pas fait les bonnes écoles, etc., et même des femmes. Au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a des femmes ingénieures. Parce que j'ai oublié de dire, et je vais y revenir, la féminisation de la profession est voisine du zéro jusqu'à la guerre de 14. Donc, il n'y a pratiquement pas de femmes. Donc, du coup, après la Première Guerre mondiale, les écoles qui ont pignon sur rue vont vouloir quand même ramener tout ça à de justes proportions. Du coup, c'est là où on va créer cette fameuse commission du titre d'ingénieur pour en fait exclure une série de formations qui s'étaient créées pour former très vite des ingénieurs parce que on avait tué les autres sur le front. Donc, vous voyez, recontraction du truc. Après la Seconde Guerre mondiale, on se dit, punaise, les Américains sont devant nous, les Allemands sont beaucoup moins sélectifs, entre guillemets, ils ont ce qu'on appelle les Fachhochschule, qui produisent des gens qui sont des intermédiaires. En France, quand je vous disais la coupure entre les gens qui exécutent, etc., la France a une espèce de coupure presque absolue, avait pendant longtemps une coupure presque absolue entre le niveau ingénieur et le niveau technicien, etc. Les Allemands, avec les Fachhochschule, ont un système un peu hybride. Ou quand on sort d'une Fachhochschule, on est plutôt technicien, mais on peut monter vers ingénieur. C'était très difficile en France pendant longtemps. Après la guerre, on se dit, à nouveau, on manque d'ingénieurs par rapport aux besoins de l'industrie, c'est la croissance, etc. Du coup, on va créer, par exemple, les INSA. Grande révolution des écoles d'ingénieurs qui prennent 800 personnes, 1000 personnes. Ce qui, l'école des ponts, à l'époque, c'est encore à peu près 200 personnes. Donc, vous voyez, espèce de truc spectaculaire, on va pouvoir créer, je sais pas, vous êtes déjà infiniment plus nombreux que de mon temps. Et en fait, juste après les INSA, on va refermer à nouveau le système. Ce qui fait qu'en France, on oscille constamment entre un discours, on n'a pas assez d'ingénieurs, ça c'était un article il y a quelques années, la France craint une pénurie d'ingénieurs, il y en a grosso modo tous les 10 ans. Et puis, en même temps, oui, mais s'il y a trop d'ingénieurs, quand même, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. Et franchement, on va appeler ingénieurs des gens, franchement, à qui on ne dirait pas bonjour dans la rue. Et vous voyez, cette espèce de logique, parce que aussi, on a fait correspondre la profession d'ingénieur en France à des procédures de sélection sociale très, très affirmées. Ça va ? Jusqu'à présent. Donc, la France a une histoire compliquée avec les ingénieurs, et ça, jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, on va parler de tous les défis. Alors ça devrait vous concerner parce que grosso modo, c'est les trucs que vous allez vous prendre dans la gueule. L'ingénieur, il s'est développé finalement dans une position où il se définissait. Il n'était pas le savant, même s'il pouvait y avoir des ingénieurs savants comme Navier. C'était pas l'ouvrier. C'était le gars qui était assez savant pour causer aux savants et arracher à la science les trucs vraiment utiles, pour ensuite réformer le travail des ouvriers, concevoir des trucs, etc. C'était un médiateur, comme on dit aujourd'hui, entre science et application, et technique. D'où l'idée d'application, toutes les mécaniques appliquées, etc., ça vient de là. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de sciences dont les résultats s'injectent directement dans les techniques, sans forcément avoir besoin de ces figures de médiateurs, parce que aujourd'hui, la science et la technique, ça rentre souvent en court-circuit. Vous prenez, par exemple, les trucs autour de l'intelligence artificielle, c'est des machins, vous n'avez pas des ingénieurs en intelligence artificielle, vous avez des chercheurs en intelligence artificielle, et très vite, ils vont faire de la start-up, ou Dieu sait quoi, etc. Prenez les matériaux, vous avez souvent des gars, bon, vous savez, c'est pas des ingénieurs au sens traditionnel, c'est des gars qui connaissent la science des matériaux, et hop, ça passe dans les applications. Alors du coup, est-ce qu'on a besoin de former les ingénieurs de façon traditionnelle? Ou est-ce qu'il faut former plutôt les gens aux sciences de l'ingénieur, ce qui n'est pas la même chose? Harvard a créé il y a quelques années une école d'ingénieurs d'un type un peu bizarre, c'est-à-dire c'est pas une école d'ingénieurs classique, c'est en fait un département de sciences de l'ingénieur, mais et cherche pas à former des ingénieurs de façon traditionnelle. Donc finalement, est-ce que ce personnage qui était à l'interface des sciences et des techniques, ça a encore un sens aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut changer de modèle? Et peut-être finalement, bon, l'avenir, c'est des écoles de sciences, simplement que, bon, bah, science plus business, par exemple. Prenez aujourd'hui le start-upper idéal, c'est le mec qui a fait de la science et qui tout d'un coup passe au business, mais pas l'ingénieur qui a fait l'école, machin, etc. Donc, voyez, ça, c'est une question. Ça se corrèle d'ailleurs avec la question de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, etc., et c'est pour ça que cette question se pose. Ça se corrèle aussi à un changement de nature des sciences. C'est clair aussi, par exemple, qu'on va dans un monde dans lequel les sciences liées au vivant sont de plus en plus importantes. Manque de peau, ça c'est un connectome, enfin des trucs de câblage du cerveau. Manque de peau, c'est quand même un des domaines qui va très très vite. C'est un des domaines où traditionnellement les ingénieurs sont peu présents. Il n'y avait pas beaucoup. Bon, il y a les gars d'agro, effectivement, mais dans la biologie, c'est un domaine où il y avait plutôt des scientifiques. Et aujourd'hui, c'est un domaine où vous avez plein d'applications, la biomécanique, etc. Donc, ça, c'est une première type de question. Alors, deuxième type de question massif, et ça ne va pas vous échapper, c'est que l'ingénieur, c'était un gars, en général, qui concevait des systèmes plutôt artificiels. Qui, d'ailleurs, avait un rapport à l'environnement pas terrible. En général, c'était le mec qui faisait passer des autoroutes au milieu des forêts. C'était pas... Bon, il y avait toujours les gars des eaux et forêts qui s'occupaient un peu de forêts, mais enfin, c'est majoritairement l'ingénieur, c'était le mec qui foulait au pied la nature, plutôt que le gars qui s'occupait vraiment de trucs naturels très à fond. Alors des fois, si, il fallait quand même qu'il s'en occupe si vous étiez dans les travaux hydrauliques, etc. Bon. Moi, je vois, par exemple, au départ, j'étais ingénieur des ponts et chaussées. Et voilà pas que je termine ma carrière ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Et je me demande pourquoi on m'a casé les forêts alors que je ne sais même pas reconnaître un arbre d'un autre. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a la formidable montée en puissance des questions environnementales, des questions écologiques, etc. Et le fait que vous êtes à peu près pas formé du tout pour ces trucs-là. Et que c'est pas seulement une question de science, c'est une question de programmation de vos cerveaux. C'est-à-dire, on vous a peu habitué à raisonner sur le vivant. On vous a pas tellement habitué. Vous êtes quand même... L'école des ponts, d'ailleurs, est une école qui, pour le meilleur et pour le pire, est plutôt sur des modèles mécanistes implicites que sur des modèles liés au vivant. Et ça, ça va être un problème parce que vous êtes dans un... Il y a une série des domaines de l'école des ponts qui vont du génie civil à la ville, en passant par d'autres domaines, dans lesquels la question du vivant... Ça va devenir une des questions les plus centrales. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les projets d'urbanisme, les corridors de diversité biologique, ça devient des trucs presque aussi importants que d'évacuer l'eau. Là, actuellement, je suis dans un comité qui regarde, par exemple, pour le village olympique. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pensé les corridors de diversité animale, etc., par où passent les escargots et les grenouilles, la question de la diversité de la flore, c'est pas des trucs dont on s'occupait pour ce genre de projet. Aujourd'hui, c'est des trucs absolument présents et sur lesquels on vous attend, etc., etc. Donc, c'est en train de changer. Et du coup, c'est vrai que les cadres traditionnels de formation sont en train d'exploser. C'est-à-dire qu'on vous formait, si vous vouliez vraiment faire de la biologie, vous allez en agro. Sinon, si vous vouliez faire des rigoles en béton, vous alliez ici. Aujourd'hui, il faut faire les deux. Alors le paradoxe français, c'est que vous savez que le corps des ponts a fusionné avec le corps de l'agro, mais en fait, on ne se parle toujours pas. Donc j'ai des forêts dans mon nom, mais on ne voit pas de gens de l'agro tellement ici, etc. Donc en fait, c'est compliqué. Ça va être un des défis de votre génération intellectuellement, ce truc-là. Il ne faut pas vous faire d'illusions, vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce qu'il va falloir apprendre à raisonner différemment. Autre truc, bon, le taux de féminisation. Vous êtes à combien de pourcents de filles maintenant dans votre promo? 30%, c'est ça? Bon, ben ça stagne. 30%, elle est pas mal la fille d'ailleurs, bon, enfin pour les mecs hétéros, mais c'est en fait, il y a une boîte d'ingénierie qui a foutu cette pub sur les murs, My team is great, etc., engineering. Et là, vous avez toute une bande de beaufs mecs, du genre, ah, elle est ingénieure et moi, je suis top model, ah, 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 etc., etc. Vous voyez le genre, le truc, bac plus 12, moins 14. Alors, ça a donné ça. Révolte de toute une série de nanas. Ce que j'adore, c'est celle en bas qui dit « I also love pink ». C'était un peu à l'époque aussi de l'égalité blonde, pour ceux qui ont vu ce film. Déjà ancien, mais en fait, la féminisation de l'ingénierie, c'est un vrai défi. C'est-à-dire que, à part la chimie, qui historiquement a eu plus de femmes ingénieures que d'autres, dans les formations, moi de mon temps, c'était pire, c'était à peu près 10%. Quand on a ouvert l'école polytechnique, on a eu 10-12%. Ça monte, mais on est quand même encore assez loin de la parité. C'est une des professions qui se féminise le plus lentement. Alors, vous pouvez croire que c'est pas grave, moi aussi d'ailleurs, mais en fait, c'est grave, parce que ça veut dire quand même que dans un monde dans lequel, malgré tout, ces questions sont en train de devenir absolument centrales, etc., le fait d'avoir 30% de femmes, ça colore quand même encore ces formations. Je dirais, on est très très loin encore, je dirais, d'une profession qui s'est équilibré de ce point de vue. Donc, ne pas s'imaginer que ça soit neutre, cette affaire. Autre point, ça, c'est les protestations sur Notre-Dame-des-Landes. C'est ce dont je parlais au tout début. Vous êtes rentré dans une école dont vous attendez finalement que... Bon, même si vous n'avez pas à apprendre tant de choses que ça... Bon, c'est vrai, globalement, je ne me fais pas d'illusions. Mais enfin, il va quand même falloir apprendre un petit peu des choses, parce que je vous dis, à la sortie, quand même, les autres, ils vous guettent. Mais enfin, vous attendez a priori quand même à une certaine forme de respect. D'abord, vous avez eu la mention très bien au bac, tout le monde ne l'a pas eu dans votre classe, je suis des ponts et chaussées, ok, etc. Donc vous dites quand même, ma parole a quand même un certain poids. Et vous allez rentrer dans un monde dans lequel tout le monde en a rien à foutre, et de plus en plus, et même vos diplômes, c'est assez frappant dans les jeunes générations. Bon, d'accord, ils sont impressionnés par le fait que vous avez fait les ponts, mais pas tant que ça. Et vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas impressionnés du tout. Ils disent « T'es qui, toi, pour me dire qu'il y a du réchauffement climatique ? T'es qui, toi, pour me dire que c'est bien de faire un tunnel dans ma montagne ? T'es qui ?» etc. Et vous allez rentrer dans un monde dans lequel la technologie n'est plus forcément synonyme de vérité, de bien, de trucs qui fait consensus, etc. Vous allez rentrer dans un monde dans lequel vos discussions, vos décisions, vos suggestions vont être contestées. Et de plus en plus. Et du coup... il va falloir apprendre à argumenter autrement. Et ça, c'est pas simple. Parce que finalement, en prépa, on vous a dit, finalement, si le raisonnement est logique, et grosso modo, vous aviez à convaincre votre prof. Donc, grosso modo, le prof, si vous aviez la matrice juste, etc., il était convaincu. Là, vous allez avoir à convaincre des tas de gens que c'est pas la peine de sortir. Il va falloir communiquer. Et encore une fois, pourquoi croyez-vous que je fasse le zozo? C'est pas fondamentalement parce qu'on veut faire de vous des historiens ou Dieu sait quoi, c'est parce que c'est le début d'une formation qu'il va falloir acquérir en parallèle à vos études techniques, économiques, etc., qui va être quand même un minimum de formation à la société dans laquelle vous allez débouler et qui ne vous attend pas comme monsieur ou madame l'ingénieur des années 50-60. Moi, je me souviens, mon premier poste, c'était dans un ministère. J'avais un vieil ingénieur des travaux publics de l'État. Il y avait à l'époque une hiérarchie entre les ingénieurs des travaux publics de l'État et les ingénieurs des ponts et chaussées qui m'appelait monsieur l'ingénieur. Je trouvais ça vraiment totalement... Alors, j'appartenais déjà à des générations qui trouvaient ça un peu limite burlesque, mais la génération avant moi, c'était normal. Bon, bah, ça ne va pas être le monde dans lequel vous allez débouler, qui va être un monde beaucoup plus contesté, un monde dans lequel la vérité... va devenir quand même un challenge complexe. Ça vous a pas complètement échappé. Et donc, ça complique la vie. Alors, d'une certaine façon, je disais la féminisation, c'est un tableau de ce peintre américain Norman Rockwell qui s'appelle Kansas Spirit, City Spirit, qui a une espèce de vision héroïsée de l'homme technicien face aux défis de la construction, etc. L'ingénieur, c'était un peu ça qu'il y avait derrière la tête. Bon, ben, et c'était pas une profession, encore une fois, très féminisée. Hein. C'est pas une représentation très équilibrée d'un point de vue gender. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va falloir sortir de ça. Il va falloir rentrer dans un monde dans lequel, finalement, quand je vous disais, il va falloir apprendre les nuances de gris de la réalité, parce que jusqu'à présent, vous avez appris le noir et blanc de la vérité et de l'erreur, manque de peau, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir apprendre finalement aussi, je dirais, à réfléchir sur des tas de questions bizarres. Mais par exemple, bon, la violence du mouvement MeToo vous a pas totalement échappé, je suppose. Je ne sais pas s'il y a eu ça dans les prépas ou pas. Hmm? Aux États-Unis, dans les écoles d'architecture, il y a eu un truc quasi traumatique qui s'appelait la Shitty Architect List, qui était en fait un site dans lequel vous pouviez dénoncer de façon anonyme les shitty architect men. Et alors, j'avais une copine qui me disait, et c'est vrai qu'on était tous un peu terrifiés de s'y retrouver, parce qu'on avait une fois donné une mauvaise note à une étudiante, ou Dieu sait quoi, mais en fait, ça a eu un impact terrible, etc. Donc le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer, et toute une série de choses, etc. Et je dirais, alors, pour terminer, et ça, c'est pas de truc visuel, mais oui, alors peut-être autre chose et ensuite je terminerai. Il y a aussi des façons de raisonner. Bon, bah ça c'est la D-School de Stanford. Si on a créé une D-School à l'école des ponts, c'est pas pour le plaisir de coller des post-it au mur. C'est parce que c'est vrai qu'il y a d'autres modes de raisonnement, y compris sur les questions de produits, de techniques, etc., qu'il va falloir acquérir. Et donc ça fait partie aussi de ce truc-là. Alors dernier point, qui est le point désagréable et réac. Je me souviens, quand j'étais à l'IX, j'avais un vieux professeur de maths qui s'appelait Laurent Schwartz, qui était un grand mathématicien et tout, qui nous bassinait avec le fait qu'on foutait rien, ce qui était vrai. Enfin non, c'était pas vrai, parce que je bossais pour entrer dans le corps des ponts, parce que j'avais déjà des projets un peu pervers. Mais je me souviens, on était indignés par le fait que Laurent Schwartz nous dise qu'on bossait pas assez en sciences, etc. Eh ben, bizarrement, vous voyez, quand même, de longues années, voire même plusieurs décennies après, bah, je trouve qu'il n'avait pas totalement tort. Et donc, je vais y aller de mon couplet réac. Mon couplet réac, c'est de dire, les gars, il va falloir se remettre au travail. Vraiment. C'est vrai que vous êtes mis au travail quand même. Moi, je foutais rien à l'école des ponts, c'était cosmique. Surtout la première année, parce que moi, si vous voulez, on était les générations... On arrivait de l'X et franchement, bon, à part aller chercher sa fiche de paye pour les ingénieurs du corps des ponts, on s'épuisait pas beaucoup en première année, enfin en deuxième année. Moi, j'ai quand même eu un rattrapage de rattrapage de rattrapage, si vous voulez, ce qui était quand même un truc, parce que j'avais raté, bon, j'avais rien foutu, donc j'avais raté l'examen, ensuite j'avais raté le rattrapage, donc j'avais eu droit à toutes sortes de rattrapages jusqu'à ce que je finisse par épuisement du professeur à emporter le morceau. Ben, ça va pas. Alors moi, je pouvais me permettre ça d'une certaine façon, parce que je suis vieux et con, et qu'à l'époque, on n'était pas dans un monde mondialisé. C'est quand même clair que vous allez vous retrouver dans un monde dans lequel, assez directement, dans toute une série... D'abord, vous allez être plus mobile. Ma génération, on rentrait dans un boulot, Dieu sait quoi, puis on y restait un certain temps. C'était pas très mobile. Vous allez être probablement beaucoup plus mobile, changer de boulot tous les 3-4 ans pendant un certain temps, etc. Probablement avoir des expériences à l'international beaucoup plus. Nous, on était quand même les trois quarts très franco-français sur des rails, etc. Donc ça veut dire que vous êtes en compétition avec le reste de la planète, avec des gens qui ont d'autres formations, avec des Indiens qui ont bossé comme des malades parce qu'ils sont 1,2 milliard ou 1,3 milliard pour entrer dans des instituts de technologie qui leur permettent ensuite de s'en sortir dans un pays où c'est quand même Dallas, ton univers impitoyable. Vous allez être en compétition avec des Chinois qui ont aussi un léger problème de nombre. Vous allez être en compétition avec des Américains qui ont beaucoup de défauts mais bossent beaucoup. Alors, vous avez des atouts. C'est clair que je ne crache pas du tout sur le fait que, malgré tout, vous avez été bien formé en sciences. Et en général, comme je le dis, vous allez comprendre être rapide. Mais vous allez rentrer quand même dans un monde dans lequel le rapport au travail, le rapport, etc., va être assez différent. C'est aussi paradoxal parce que vous allez rentrer dans un monde dans lequel les entreprises vous font pas de cadeaux, dans lequel les choses deviennent plus instables et on s'attend à ce que vous bossiez plus. C'est un peu injuste, c'est comme ça. Donc, et moi, la raison pour laquelle je donne cette séance du cours, je sais bien que c'est pas la plus marrante, encore une fois, c'est vachement plus rigolo de discuter d'autres trucs et tout, c'est que je pense qu'une des bonnes façons d'être en compétition, c'est de réaliser d'où on vient, quand même, pourquoi vous avez ces avantages, mais aussi ces faiblesses. Vous avez, encore une fois, c'est vrai que comprendre des systèmes mathématiques compliqués, mathématisables et mathématiques compliquées, vous êtes plutôt dans le top du panier mondial. Comprendre, je dirais, certains aspects, je dirais, vous avez aussi une bonne culture générale qui est liée au lycée, le lycée français, le lycée à la française pour les gars qui ne sont pas écrasés par le système, c'est-à-dire les trois quarts des gens, faites partie des survivants du système. Donc, pour des raisons aussi sociales, il y avait des livres à la maison pour la plupart d'entre vous, etc., etc. Donc, c'est aussi un atout. Et vous avez aussi des faiblesses. Une légère tendance à penser quand même que vous êtes des rentiers parce que vous êtes rentrés dans une grande école. Une légère tendance à surestimer le poids du diplôme 5 ans après, vous allez vous rendre compte quand même. Et puis, les diplômes dans une compétition mondiale, bon, bah ok, mais... ça ne va pas se jouer au moins autant qu'autrefois sur le diplôme. Donc, mais ce que je pense, c'est qu'il faut avoir un peu fait le bilan de ses forces et de ses faiblesses. Je pense assez curieusement que l'école des ponts est une institution formidable, à condition qu'elle survive, et à condition aussi, parce que, bah, vous savez, la survie aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de gagné pour toutes les institutions, les gens, etc. Donc l'école des ponts, bah, c'est à vous d'en faire une institution qui survit. Une école, la vérité aussi d'une école, c'est que, je me souviens, j'avais rencontré... La vérité d'une école, en bref, c'est que c'est pas moi qui fais la qualité de l'école, c'est vous. C'est la qualité des élèves, c'est le fait qu'ils en veulent, c'est le fait que vous ayez envie de faire des choses, etc. Les profs, c'est important, mais c'est pas... Bon, si, je pense que j'aime bien ce que je fais, je pense que c'est bon que les profs aiment ce qu'ils font et le fassent avec un peu de passion, mais le plus important, c'est vous et l'envie de faire des choses. Et l'envie aussi, finalement, de faire que cette institution, bah, elle va survivre à cause de vous, d'une certaine façon. Et c'est ça le plus important. Oui, je disais, j'avais rencontré un monsieur, quand même, qui était très étonnant, il s'appelait Harry Cobb, c'est le partenaire de Pei, le gars qui a construit la pyramide du Louvre. Grand architecte américain, etc., qui était très, très vieux. J'avais fait un cours avec lui. Il était très, très vieux. Il devait avoir 87, 88 ans. C'était il y a 3-4 ans de ça. Il me racontait comment il avait fait ses études à Harvard dans les années 40, en 45. Et il me disait, en fait, il y avait des grands profs à l'époque. Il y avait un gars qui était le fondateur du Bauhaus, Gropius, etc. Mais il disait, en fait, c'était pas les profs, parce que les profs foutaient rien, etc. C'était nous, les élèves, qui en voulions, etc. Et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc, je ne saurais trop vous inciter à avoir un appétit frénétique, y compris, malgré tout, pour les études. Autrefois, quand j'étais d'humeur méchante, je disais que vous étiez des bacs plus 3 à la sortie de l'école des ponts, parce que chaque année de prépa comptait pour une année de formation, et puis les 3 années d'école des ponts comptaient pour une année de formation réelle. Ça s'est un peu amélioré. Je suis prêt à vous donner une autre année post-bac. Mais c'est clair que ça va être un enjeu dans les années qui viennent. Donc...